Vous êtes sur RTL. RTL Matin jusqu'à 9h15
avec Dominique Tenza.
Et l'actualité, c'est avec vous, Yann Boucherie, bonjour.
Bonjour Dominique, bonjour à tous.
À la une, la réconciliation tant attendue dans la famille Hallyday.
Oui, les héritiers de Johnny ont enterré l'âge de guerre 2 ans et demi après la mort de la star. Sa veuve Laetitia et ses enfants aînés Laura et David mettent fin à la bataille qui les opposait devant les tribunaux. Alice Moreno, un rapprochement qui s'est noué en toute discrétion.
Oui, c'est un accord qui a valeur de traité de paix trouvé à l'issue de plusieurs mois de tractations entre Laura Smet et les Laetitia Hallyday. C'est d'ailleurs la veuve de Johnny qui aurait initié les discussions selon son avocat Gilles Gower.
Nous étions dans une situation qui n'était pas acceptable en mémoire de Johnny, qui ne respectait pas ce que Johnny pouvait légitimement vouloir, la paix au sein de la famille. Et Laetitia a su faire preuve de résilience, de recul, de réflexion, de sagesse pour ne pas tomber dans ce contentieux, dans l'agressivité.
Les conseils de Laura se refusent à tout commentaire. David Hallyday, lui, n'est pas concerné par cet accord. Mais cette entente signe bien la fin de la tourmente pour toute la famille, selon son avocat Pierre-Jean Douvier.
Nous désisterons de toutes les actions. Ce que nous voulions, c'est un arrêt des actions judiciaires. Et comme on voit que l'accord est arrivé, on est dans la sérénité. Donc maintenant, on peut regarder l'avenir tranquillement.
David renonce donc à sa part d'héritage. La somme versée à Laura demeure confidentielle.
Le récit d'Alice Moreno pour RTL. En bref, le djihadiste français Tyler Villus, condamné à 30 ans de réclusion criminelle assorti d'une peine de sûreté des 2/3. Il a été reconnu coupable de crimes commis en Syrie de 2013 à 2015, notamment l'exécution de 2 prisonniers. Pourtant, la cour d'assises a écarté la perpétuité, selon son président, pour laisser aux condamnés une lueur d'espoir pour qu'ils puissent évoluer.
La France va devoir maintenant apprendre à connaître son nouveau Premier ministre.
Jean Castex a été nommé hier par le président de la République et la passation de pouvoir avec Édouard Philippe s'est déroulée en fin de journée. Âgé de 55 ans, il était jusqu'ici le monsieur déconfinement du gouvernement. C'est un haut fonctionnaire de formation inconnu du grand public. Il est aussi maire de Prades dans les Pyrénées-Orientales depuis 2008. Son premier adjoint, Yves Delcor, ne tarit pas d'éloge sur le nouveau locataire de Matignon.
Je pense que ce qu'il peut apporter, c'est beaucoup de pédagogie qui manque énormément. Et les gens qui sont du terrain, qui sont capables de, je vous dis, par la pédagogie, par la connaissance et l'empathie des gens, vous pouvez arriver à convaincre les gens à aller dans un bon sens. Après, il a rassemblé 75, et plus aux dernières élections municipales.
Alors, on est au pied du Canigou, qui est un très haut sommet. Est-ce qu'il peut renverser les montagnes, Jean Castex?
Enfin, je le souhaite. Sincèrement, je le souhaite.
Yves Delcor, le premier adjoint de Jean Castex à Prades, et donc le futur maire de la commune au micro RTL de Patrick Hisson. Le premier ministre va maintenant s'atteler à composer son gouvernement. Il devrait prononcer un discours de politique générale en milieu de semaine prochaine. Dans l'opposition, sa nomination est accueillie avec circonspection. La même politique sera poursuivie, selon le député insoumis Alexis Corbière.
Je n'ai rien contre Monsieur Castex, si ce n'est que je ne le connais pas. Il est maire d'une commune, Prades, très bien. Ancien proche de Nicolas Sarkozy, très bien. C'est selon moi un des problèmes, c'est qu'aujourd'hui, en 5e République, un homme peut être nommé chef de gouvernement en étant un inconnu pour la très grande majorité de la population, découvrant son nom et ne sachant pas non plus quel type de politique il va mener et avec qui. Alors après, Monsieur Castex, je crois comprendre qu'il a, parmi son habileté, qui semble assez saluée par tous ceux qui le connaissent, des fines connaissances du mouvement syndical. Peut-être qu'on peut imaginer que si Emmanuel Macron l'a nommé, c'est parce qu'il sent bien qu'il y aura une rentrée sociale mouvementée, des plans de licenciement, une volonté de la part d'Emmanuel Macron de continuer ses réformes. Il a peut-être cherché à avoir un démineur, mais c'est un peu court pour être nommé à Matignon.
Alexis Corbière, joint pour RTL par Vincent Serrano. Un scrutin sous haute tension aujourd'hui à Marseille. L'élection du ou de la maire de la cité phocéenne se révèle pleine d'incertitudes. À gauche, la sénatrice Samia Ghali a revendiqué sa liberté de vote après le refus de Michel Rubirola d'accepter sa demande d'être première adjointe. Une situation qui pourrait profiter à la droite. Le vote est prévu à 9h30.
7h34 sur RTL, dans l'actualité aussi ce matin. Yann, le vrai début des vacances estivales.
Journée orange sur tout le territoire sauf en Île-de-France où bison futé et voie rouge. Affluence aussi dans les gares puisque 800 000 voyageurs sont attendus ce week-end. C'est moitié moins que l'année dernière à la même époque pour cause de coronavirus. Le masque reste obligatoire mais les voitures-bars vont réouvrir aujourd'hui. Il sera possible d'acheter à nouveau de la nourriture. Les précisions d'Alain Krakowicz, le directeur général de Voyage SNCF.
Ça va se faire évidemment dans les conditions de respect des règles sanitaires. Et par exemple, dans le bar, il faudra venir chercher son repas avec un masque, avec évidemment des règles de distanciation physique. Mais on pourra manger évidemment à sa place. On restera pas dans la voiture bar, on mangera pas dans la voiture bar, on mange à sa place. On vient juste chercher sa nourriture avec son masque.
L'offre sera la même, il y aura autant de choix ou ça va être réduit?
On va faire évoluer légèrement l'offre pour la simplifier, parce que on veut pouvoir maintenir un débit important pour pouvoir permettre au maximum de clients de pouvoir se restaurer. Donc on va simplifier un tout petit peu l'offre.
Alain Krakowicz, le directeur général de Voyage SNCF au micro RTL d'Éric Vanier. Certains ont devancé l'appel et sont donc déjà sur place à profiter de leur congé. Illustration avec ces estivants, ils ont pris possession de leur emplacement dans un camping de Saint-Malo avec vue sur la Côte d'Émeraude.
On a cette envie de se retrouver dans des cadres avec une sensation de liberté après cette période.
La petite table de camping, les chaises et puis on aimerait bien que le soleil perce un peu plus, mais on est bien quand même.
Ça permet de retrouver la vraie vie, de faire un break avec tout ce qui s'est passé. Ça apaise les tensions.
Les gens sont de bonne humeur. Il y a beaucoup de Français. On a quelques Allemands aussi. Depuis quelques jours, ça ne fait qu'augmenter. Donc c'est plutôt positif pour une ouverture.
À propos recueilli par Christian Panvert à Saint-Malo pour RTL. L'actualité à l'étranger, le Covid-19 poursuit son expansion aux États-Unis. Plus de 57 000 contaminations en une seule journée. Un record depuis le début de l'épidémie qui a fait près de 130 000 morts dans le pays. Et puis on l'apprend ce matin, la petite amie du fils aîné de Donald Trump a été testée positive. Elle se trouvait hier soir au Mont Rushmore dans le Dakota du Sud pour assister au discours du président et au feu d'artifice de la fête nationale du 4 juillet. Elle a été placée à l'isolement, tout comme le fils, donc aîné de Donald Trump, testé lui négatif.
En France, ils étaient à l'arrêt depuis plusieurs semaines pour cause de coronavirus. Les musiciens de l'Opéra de Nancy se sont déconfinés de manière originale.
Oui, une formation réduite de l'orchestre a eu la bonne idée d'offrir un concert décentralisé pour les bénévoles et les bénéficiaires des Restos du Cœur de l'Axou en Meurthe-et-Moselle, les Noces de Figaro ou encore le Quatuor de Borodine. Les auditeurs privilégiés ont adoré Samuel Goldschmidt.
Le Quatuor est impeccable, heureux de reprendre les concerts en vrai, surtout devant un public si proche. Fédois Bayoud est chargé de l'action culturelle à l'Opéra de Nancy.
On est vraiment très contents parce que même nous, on ne savait pas du tout comment ça allait se passer. Est-ce que les bénéficiaires allaient vouloir quand même s'installer, écouter? Et c'était important aussi de le proposer pour les bénévoles. Ça a duré 30 minutes. Même pour moi, ça m'a fait énormément de bien. Ça m'a manqué d'écouter de la musique et je pense que c'était le cas pour eux aussi. Un peu de douceur, un peu de bien-être, un peu d'épanouissement à tout le monde.
Dans la petite salle des Restos du Cœur, des bénévoles.
C'était magnifique. Ça donne des frissons.
Ils étaient que 4, mais quand il y a toute une salle et quand il y a tous les musiciens, ça doit être amplifié, ça doit être magnifique, encore plus beau.
Ou des bénéficiaires mélomanes comme Alain.
Un concert, il faut quand même certains moyens. Je trouve remarquable que des personnes de cette qualité se déplacent dans des endroits comme ici pour des bénéficiaires qui souvent n'en ont jamais entendu parler.
Et avant les Restos du Cœur, l'Opéra de Nancy a aussi joué pour l'hôpital de la ville.
Le reportage de Samuel Goldschmidt à Nancy pour RTL.
La voile à présent est le dernier galop d'essai avant le départ du Vendée Globe le 8 novembre prochain.
Oui, ils seront 20 skippers à s'élancer cet après-midi des Sables d'Olonne pour la Vendée Arctique, un parcours en forme de triangle de l'Islande aux Açores et un retour dans le port vendéen. Les marins ont appareillé hier pour rejoindre directement la zone de départ avec des mesures sanitaires très strictes, Patrice Gabart.
Comme l'exige la procédure de cette première grande course au large de l'après-confinement, Yannick Bestaven, skipper de Maître Coq, a été soumis hier à un test Covid avant de quitter son port d'attache de La Rochelle et rejoindre la ligne de départ, ainsi que ses deux équipiers qui sauteront du bateau avant le coup de canon.
Les trois, on a respecté les mêmes règles. De manière, c'est tellement spartiate le lieu de vie sur un bateau que si l'un de nous là, ça va être compliqué de ne pas le transmettre. Donc on va être testé en espérant que les deux marins à bord avec moi n'aient pas ni moi le Covid. Donc voilà, donc on va faire ça tout à fait normalement. Et le résultat du test nous dira si on est apte à partir.
Réponse ce midi. En attendant, c'est une veillée d'armes là aussi. Plutôt inhabituel.
Passer une nuit en mer avant de prendre le départ, c'est plutôt bien parce que ça permet de bien s'amariner, s'acclimater avec le bateau. Ça donne un peu moins de pression. On a l'impression de partir pour une petite balade et pas forcément pour faire un long parcours.
Une boucle inédite de 6600 km via l'Islande et les Açores Avec un début de course qui s'annonce musclé, les premiers bateaux sont attendus au Sable d'Olonne à partir du 14 juillet.
Le reportage en Vendée de Patrice Gabart et le départ sera donc donné cet après-midi. Coup de canon à 15h30.
Merci beaucoup Yann Boucherie, on se retrouve à 8h30 à tout à l'heure.
Tout à l'heure.
On parle voiture dans un instant, les amis, avec notre spécialiste Christophe Bourou. Et ça tombe bien ce premier jour de départ en vacances. Christophe va nous expliquer comment ruser et payer moins cher le péage. Et là, je suis sûr que vous allez tendre l'oreille. À tout